Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchi.
Aujourd'hui, 17 février 2024, nous sommes heureux de partager avec vous nos impressions à propos du mois de l'histoire des Noirs. Bonjour Ahmed.
Bonjour cher Augustin, bonjour tout le monde.
Ok, son de cloche. Et moi, nous sommes contents de te souhaiter le meilleur.
Merci.
Oui, oui, aujourd'hui et pour tout le mois de l'histoire des Noirs. Bon. Bonjour à toutes et à tous, aux uns et aux autres fidèles auditrices et auditeurs de Chise 94.3 FM et de Son de cloche, l'émission préférée de beaucoup ici et à travers le monde pour toutes ses formes d'expression, anodines, remarquables ou extraordinaires, locales ou globales, artistiques, scientifiques, sociales ou autres, des êtres, des choses, des événements. Nous suggérons de ne pas rester enfermés dans des concepts, des paradigmes ou des idées toutes faites, mais se sentir en tout temps, solidaires de tout ce qui concerne notre monde ou nos semblables ici ou ailleurs, et agir en conséquence, sans être limités ou disqualifiés pour quelque raison que ce soit. Notre émission donne l'occasion à tous les points de vue d'exprimer leur originalité dans le respect de toutes, tous, chacune et chacun. Dans cette célébration du vivre ensemble, nous œuvrons à la concrétisation heureuse du donner et du recevoir au fil des émissions. Je m'appelle Augustin Béchi et vous exprime toute la joie, l'enthousiasme et le plaisir incroyable et agréablement renouvelé de passer les 2 heures qui vont suivre en votre estimable, enrichissante et stimulante compagnie. Aujourd'hui, nous partons sur l'idée à propos du mois de l'histoire des Noirs, que les Noirs ont été parfois, ou souvent, jugés, pas sur ce qu'ils faisaient ou par ce qu'ils font, mais sur ce qu'ils étaient. Alors, nous allons passer en revue quelques figures de l'histoire des Noirs et surtout l'idée de Frantz Fanon. Mais avant cela, écoutons Aretha Franklin nous parler d'amour, parce que c'est le mois, c'était la semaine de la Saint-Valentin, et on parlait d'amour. Ici, nous allons parler d'amour avec, chanter l'amour avec Aretha Franklin qui nous chante Respect. Alors, Frantz Fanon est né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, Martinique. Il est mort le 6 décembre 1961 à Bethesda, dans un hôpital militaire de la banlieue de Washington aux États-Unis. C'est un psychiatre et essayiste de nationalité française, se considérant comme citoyen algérien. Fortement impliqué dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et dans un combat international, dressant une solidarité entre frères opprimés. Il est l'un des fondateurs du courant de pensée tiers-mondiste et une figure majeure de l'anticolonialisme. Il a inspiré les études postcoloniales. Il cherche à analyser les conséquences psychologiques de la colonisation à la fois sur le colon et sur le colonisé. Dans ses livres les plus connus comme « Les damnés de la terre », il analyse le processus de décolonisation sous les angles sociologiques, philosophiques et psychiatriques. C'est surtout la pensée, cette citation que je m'en vais vous partager avec vous, qui va guider nos échanges d'aujourd'hui. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ahmed.
Écoute, mon cher, déjà, avant de commencer,
oui.
Joyeux Saint-Valentin, mon cher.
Oh, merci beaucoup.
Que d'amour et que du bonheur.
À toi aussi.
Et on a toujours 20 ans. Là, on commence vraiment dans le tas, là, avec tout ce qui est citation, je dirais, un petit peu philosophique.
Oui.
Écoutez, déjà, il faut définir ce qu'on appelle les citations de tiers-monde. C'est quoi le tiers-monde ?
Ok.
Je crois que après la guerre froide, on a... Est-ce qu'il y a des classifications du monde ? Mais en tout cas, le tiers-monde, c'est les pays non alignés à la base.
Ah, bah, moi je croyais qu'il y avait les pays non alignés.
Mm-hmm. Et les pays...
Qu'on pouvait les distinguer des pays du tiers-monde.
Après, c'est devenu...
Bon, ou bien alors on fait un amalgame de tout ça. Dieu reconnaîtra les siens.
Oui, si, oui. Je vais pas dire s'il peut, mais oui, Dieu reconnaîtra les siens. Mais c'est ça. C'est pas à la base économique qu'on l'entend aujourd'hui. C'est les pays de tiers-monde qui ont encore du travail à faire pour rejoindre les pays développés. Parce
que, excuse-moi, je repars sur mon idée.
Oui.
C'est que quand on pense à la communauté noire, mm-hmm. on pense à des idées fortes comme l'esclavage,
oui.
comme l'exploitation, bon, l'exclusion.
Mm.
Bon, avec Frantz Fanon, mm-hmm. nous parlons de décolonisation
mm-hmm.
ou de colonisation.
Mm-hmm.
Et il regardait les effets à la fois sur le colon
mm-hmm.
et sur le colonisé.
Mm-hmm.
Bon, certains philosophes ont dit que à un moment donné, l'esclave devient le maître du maître
mm-hmm.
et le maître devient l'esclave de l'esclave.
Mm.
C'est compte tenu des biais dans le fonctionnement.
Oui.
Oui. Bon, alors,
je suis d'accord
toi,
avec ça.
Toi, tu précises une chose.
Mm-hmm.
Tu dis que les pays non alignés
mm-hmm.
sont aussi des pays du tiers-monde.
Oui.
Bon.
Pas que, oui. Oui, en fait, il faut comprendre aussi, le monsieur nous parlait, il était, tu as dit tout à l'heure, dans la guerre d'Algérie, n'est-ce pas ?
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que il a souffert du colonialisme.
C'est un Martiniquais.
Oui.
Bon, qui a participé à tous les troubles qu'il y a eu dans l'indépendance de l'Algérie.
Oui, la guerre ce qu'on appelle la guerre d'un million de martyrs.
Ah, bon, voilà. Il est même devenu algérien.
Pas que lui, on a plusieurs nationalités, oui.
Bon, mais parlant simplement de lui,
mm-hmm.
nous partons sur l'idée aujourd'hui que chaque génération doit, dans une relative opacité, c'est-à-dire sans trop savoir où elle s'en va,
mm-hmm.
découvrir sa mission, c'est déjà quelque chose.
Déjà.
La remplir ou la trahir?
Oui, il y a deux voies. Oui. Bah, écoute, il a relayé les faits, c'est vrai. Mmh. Déjà, de trouver la
mission.
La mission, c'est déjà une génération. Bah, c'est un travail dur pour la trouver. Mmh. Puis, si on continue à l'honorer, soit à la trahir, c'est totalement. Il a totalement raison. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas un centre-milieu entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas oui, mais non, tu sais, c'est adjacent. C'est, on va juste la caresser au sens du poil.
Du poil.
Non. Avec son vécu, non. D'ailleurs, si on y va, si on n'y va pas, il n'y a pas le gris entre les deux. Là.
Mais ça suppose donc que la génération devrait être formée.
Oui. Mais est-ce qu'elle est toujours formée? Je ne crois pas.
Bon, et quelle est donc la génération qui peut être suffisamment formée?
Lorsque les aînés,
oui,
essaient de partager leur savoir avec les nouvelles générations, de passer le flambeau aux nouvelles générations, c'est ça. Mais là, on observe, genre, ils ne veulent pas, ou n'ont pas le temps, n'ont pas la tête. Les nouvelles générations ont d'autres choses, d'autres chats à fouetter. Mais il n'y a pas vraiment l'héritage qui va se transmettre d'une génération à une autre. L'héritage culturel, je veux dire, pas l'héritage des biens, parce que là, même cet héritage-là est controversé.
Ah là là, bon. Frantz Fanon dit aussi quelque part, quand vous entendez dire du mal du juif, tendez l'oreille, on parle de vous.
Oui, parce que, tu sais, quand j'étais petit, mon père disait genre, si tu pointes quelqu'un avec ton doigt, il y aura trois doigts qui sont pointés vers toi. Ne parle jamais, ne dis jamais du mal des autres, parce que si tu pointes quelqu'un avec un doigt, mm-hmm, les trois doigts autres sont pointés vers toi. Il ne faut jamais dire du mal. C'est dans la même philosophie. On est tous sur le même pied d'égalité, tout le monde. Quelle que soit la couleur, quelle que soit l'ethnie, c'est nos faits dans notre vie qui nous font soit on est des gens bien, soit on est des gens moins bien, pour ne pas dire autre chose.
Frantz Fanon dit aussi, les ministres, les chefs de cabinet, les ambassadeurs, les préfets sont choisis dans l'ethnie du leader, quelquefois même directement dans sa famille. Ces régimes de type familial semblent reprendre les vieilles lois de l'endogamie et on éprouve non de la colère, mais de la honte en face de cette bêtise, de cette imposture, de cette misère intellectuelle et spirituelle. Ces chefs de gouvernement sont les véritables traîtres à l'Afrique car ils la vendent au plus terrible de ses ennemis, la bêtise. Cette tribalisation du pouvoir entraîne, on s'en doute, l'esprit régionaliste, le séparatisme. Les tendances décentralisatrices surgissent et triomphent. La nation se disloque, se démembre.
Il a touché vraiment le mal. Il a touché. Bah, c'est ça, c'est des coutumes qui existent jusqu'à maintenant.
Bon.
Je suis un leader d'un chef d'État.
Oui.
Bah, je connais Augustin. Ça fait partie de ma famille. Hey, Augustin, veux-tu devenir un ministre de la Justice là?
Voilà.
Bah, c'est ça. Et Augustin, comment il fait? Bah, ah, il a son cousin, sa cousine là. Hey, viens-tu, genre? Je suis un chef de bureau. Et comme ça, c'est des ramifications familiales. On trouve la politique, l'économie, le social, tout ça tenu par des familles. Ce qu'on appelle aussi l'économie, il y en a ce qu'on appelle l'économie de la rente. C'est-à-dire, toutes des familles qui tiennent par le coup la politique et l'économie des États. C'est une tribu, deux, trois familles, mais pas un courant politique. Ils n'ont pas de convictions politiques, ils s'en foutent. Et ils ont donc des convictions, ce qu'on appelle. Du verre, de l'argent.
Bon, alors, de ton point de vue, qu'est-ce qui est préférable? Les oligarchies mafieuses ou les oligarchies familiales?
Aucune des deux. Je me mets genre dans, entre la peste et...
Et le choléra.
Ouais, non, aucune des deux, non. Pas d'oligarchie, non. Pourquoi ? On mérite mieux, n'est-ce pas ?
Il me semble aussi, mais c'est quoi le mieux ? Parce qu'on parlait de la relative opacité.
Oui,
François,
mais,
non.
Oui, mais il parlait d'une certaine époque. Elle existe jusqu'à maintenant, mais certes.
Rien n'a changé, finalement.
Dans quelques pays, oui, un petit peu. Mais rien n'a changé, certes, mais ça va changer. C'est ça qu'on parlait des nouvelles générations. Et des trahisons ou des convictions qu'on doit, le chemin qu'on doit faire. C'est, bon. C'est ça, les nouvelles générations, le combat qu'ils doivent mener, c'est ça. Ne pas être entre la peste et la choléra.
Et le choléra.
Et le choléra, ils doivent avoir une troisième solution, un troisième choix.
Bon. François Fanon dit aussi, ailleurs, ne payons pas de tribut à l'Europe en créant des États, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent. L'humanité attend autre chose que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, l'Amérique en une nouvelle Europe, alors confions à des Européens les destinées de nos pays, ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. Davantage, si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur envoyer une image, même idéale, de leur société et de leur pensée, pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf.
Il a raison. On a confié auparavant notre destin au vieux continent. Et ce qui est arrivé, on a eu une Afrique pauvre, une Afrique illettrée, une Afrique pleine de maladies, une Afrique pleine de génocides et de guerres. Avant deux jours, je regardais la carte des pays d'Afrique avant le début de la colonisation. C'était pas les mêmes pays. C'était bâti sur des ethnies, les pays, c'était bâti sur la langue. C'était des pays très grands, étendus sur presque toute l'Afrique. Et après ce qu'on appelle la colonisation, où il y avait des rois, par exemple de Belgique, qui prenaient des terres et disaient « c'est à moi, c'est pas à lui ». Ils ont fait des nouvelles frontières, ils ont divisé des familles, des tribus, des peuples. Et finalement, grâce au mouvement de libération, les nouvelles générations à l'époque, qu'ils ont eu soit, comme en Algérie, la guerre d'indépendance, ou d'autres pays avec tout ce qui est process politique, leur indépendance. Mais l'indépendance des frontières, oui. Mais l'indépendance, elle doit être économique, sociale, politique. C'est-à-dire que, forcément, pour avoir une indépendance à l'époque, il faudra signer des traités pour les gisements de minerais, pour prendre le pétrole à faible coût, pour prendre le gaz à faible coût, parce que l'Afrique, elle regorge de richesses. C'est le continent le plus riche au monde, et c'est le continent le plus pauvre dans la population. La population la plus pauvre au monde. C'est très contradictoire.
Oui, c'est contradictoire, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? François Fanon, lui, il trouve que nous ne devons pas faire une Europe bis.
Tout à fait. Non, non.
L'Europe, il faut créer quelque chose de nouveau.
L'Europe reste en Europe.
Mais maintenant,
oui.
Il y a des conditions pour lesquelles les pays du tiers-monde, ou spécifiquement de l'Afrique, par exemple, devraient fonctionner. Et si on ne respecte pas ces canons-là de fonctionnement, on a l'hostilité et parfois l'agression.
Oui.
Que faire donc dans cette...
Il faut avoir une élite politique nationaliste qui aime sa patrie.
Mais nous risquons une nouvelle guerre.
Entre qui et qui ?
Ou d'autres, enfin, entre les anciens colons.
Écoute.
Et les
si on fait une étude actuelle
du
vieux continent, il n'y aura pas de nouvelle guerre. Le vieux continent, il est affaibli, là. Je regardais...
La France est en train d'être chassée du Sahel, mais elle continue.
Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Oui, elle a perdu le Sahel. Oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, allez-y. Excuse-moi.
Bon, c'est que... mais il y a une agressivité qui demeure.
La France n'est plus la cinquième puissance mondiale. La France a 345 chars Leclerc, tanks, le char Leclerc. La France, la cinquième, en théorie, a 345 chars. Est-ce que c'est logique ? Elle n'a pas de ligne de production d'armement lourd. Est-ce que c'est logique ? La France, à l'époque de Chirac, disait non à l'invasion au State. Maintenant, elle n'ose pas même dire ça parce qu'elle n'a pas d'armée au vrai sens du mot. La France, actuellement, elle a perdu tout le Sahel. Elle n'a rien fait.
Bon, mais nous n'avons pas oublié que la France a eu du mal à partir de Haïti, qu'elle appelait la perle des Antilles. Et que Haïti a longtemps payé un dédommagement à la France. Et que Haïti, aujourd'hui, n'est toujours pas bien géré.
Tout à fait. Écoute. La France, je te donne l'exemple. France et l'Algérie.
Oui.
D'accord. Est-ce que la France a voulu partir de l'Algérie ?
Non.
Elle considère jusqu'à maintenant que l'Algérie fait partie de la France. Je t'explique pourquoi. Elle n'a jamais demandé pardon, elle n'a jamais ouvert les livres d'histoire et des archives de ce qui est passé en guerre d'Algérie. Ou plus que 100 ans de colonisation. D'accord. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie ? C'est presque la rupture diplomatique. C'est presque, je dis.
Mais c'est toujours le cas. C'est avec la France et l'Algérie, c'est... comment on va dire, c'est une maladie qui revient régulièrement.
Oui, c'est une carte à jouer à chaque fois.
Exactement.
Mais tu sais, ces pays-là, quand est-ce qu'ils prennent vraiment leur indépendance ? Lorsqu'ils n'ont pas besoin de boulons qui viennent du vieux continent, lorsqu'ils n'ont pas besoin des matériaux, parce que l'Afrique a les matériaux premiers. Là,
les matières premières.
Mais on n'a pas les usines pour...
De transformation.
Tout à fait. On a besoin des pièces de rechange, on a besoin des pneus, on a besoin de nourriture qui vient à la base, c'est cultivé en Afrique, mais transformé en Europe et on l'achète plus cher.
Oui, sérieusement, c'est la petite remarque que j'allais te faire pour échanger avec toi. Sérieusement, quand tu vis en Tunisie, tu sors un peu là, de monastère. As-tu vraiment besoin de beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs ? Moi, j'ai l'impression que le Tunisien de base peut très bien être autonome.
À part les chars, à part le... Autonome pour sa vie quotidienne ?
Pour la vie quotidienne.
Ouais, ouais, bon. On cultive notre tomate, notre patate à nous.
Exactement. Ouais,
on exporte ça, bon. On a du lait, on a... Bon.
Au-delà même d'exporter, moi je parle de consommation basique.
Je veux dire qu'on a en masse.
Voilà, c'est ça qu'on exporte. Exactement.
C'est ça, mais le problème c'est pas que ça. On est devenu une population de consommation par excellence. C'est-à-dire les produits qu'on n'avait pas besoin sont devenus des produits de première nécessité.
Alors, comment ça s'est fait ? C'est ça le...
On a changé, on s'est identifié, pour ne pas dire autre chose, aux gens qui habitent, les gens qui sont au vieux continent. C'est eux les premiers consommateurs. On s'est identifié à eux, à leur culture.
Parce que Frantz Fanon dit là que nous ne devons pas ressembler à un modèle... qui ne plaît pas même à ceux qui l'ont inventé.
Il y a un proverbe en Tunisie qui dit « Si on imite la marche du canard, on perd notre marche. »
Bon.
Et c'est ça qui était arrivé. On voulait imiter.
La marche du canard.
On a perdu. On ne sait plus, pour de vrai là, on ne sait plus nous sommes qui. Un exemple. L'Afrique du Nord. À la base, ils sont des pays africains, n'est-ce pas ? Mais ils disent, non, on est méditerranéen. Ok, d'accord. Mais ils disent, non, arabe. Ils disent, non, on est berbère. Non, on n'est pas berbère, on est mi-arabe, mi-berbère, peut-être romain. Non, peut-être phénicien. Mais c'est
on
ça.
On ne sait plus.
On ne sait plus.
Alors,
on sait plus.
Alors qu'il suffit de prendre une carte.
Voilà. C'est ça.
Et tout le monde sait où ils habitent.
C'est ça. S'ils regardent vers le nord, ah, on est à 70 km de l'Italie. 70 km, c'est même pas genre. On traverse la Méditerranée.
Exactement.
Mais on regarde en bas, ah, tiens donc. On appartient au continent africain. On regarde à droite et à gauche. Oh, non, attendez. Non, c'est le monde arabe. C'est ça. On a perdu. C'est un exemple, mais toute l'Afrique, c'est comme ça. On a perdu notre identité. Notre identité, notre fierté d'appartenir à cette terre-là, on l'a perdue. Il faut la retrouver. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut faire une peau neuve. Une peau neuve, c'est-à-dire qu'il faut avoir les pieds, les. Enraciné comme un palmier, enraciné dans la terre, dans nos ancêtres, dans notre héritage, et la tête pleine de fierté de notre vécu, de notre histoire, et avancer comme ça, c'est ça.
Mais ces racines-là, cet héritage-là, tout le monde nous les envie, hein.
Bah oui.
Mais prenons une transition musicale, oui, c'est ça, suivie d'une pause publicitaire.
Ville de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chise.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chise.ca.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales, et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chise.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chise 94.3.
Secrète, la playlist. 100% nouveautés de la ville de Québec, un lundi sur deux, 14h.
L'autre lundi sur deux, 14h, je frappe fort avec les entrevues et les questions qui tuent.
Écoute locale.
Les entrevues.
Écoute locale. La playlist.
Lundi, 14h. On sauve la musique.
À Chise 94.3.
Quelque part, puisque nous échangeons à propos des bonnes feuilles de Frantz Fanon, dans une de ses introductions de ses livres, je crois Les Damnés de la Terre, il écrit « L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui, il est trop tôt ou trop tard. Je n'arrive au point armé de vérité décisive. Ma conscience n'est pas traversée de fulgurance essentielle. Cependant, en toute sérénité, je pense qu'il serait bon que certaines choses soient dites. Ces choses, je vais les dire, non les crier, car depuis longtemps, le cri est sorti de ma vie, et c'est tellement loin. Pourquoi écrire cet ouvrage? Personne ne m'en a prié, surtout pas à ceux à qui il s'adresse. Alors calmement, je réponds qu'il y a trop d'imbéciles sur cette terre, et puisque je le dis, il s'agit de le prouver.
Oui. Puis, j'ose pas dire qu'il y a trop d'imbéciles sur cette terre, mais c'est vrai, c'est très profond, c'est vrai ce qu'il dit, tu sais. Parce que s'il n'y avait pas trop d'imbéciles sur cette terre, le monde ira mieux. Il n'y aura pas de guerre, déjà.
Ouais, mais ceux qui nous conduisent à la guerre sont supposés être les lumières de la communauté humaine.
Oui, c'est ça. On a vu les lumières de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu ça, Première Guerre mondiale, on a vu ça dans toutes les guerres que l'humanité a vécues. Et on voit les lumières. Là, on a une dernière guerre, c'est la guerre la guerre de la sauvegarde de la planète,
oui.
La guerre de l'environnement.
Exactement.
Et on voit comment les décisions sont prises. Il y a toujours une forte émission de CO2, il y a toujours le plastique, il y a toujours tout ce qui accélère l'arrivée au point de non-retour. C'est pour ça qu'il dit, je crois, qu'il y a tellement d'imbéciles dans ce monde.
François Fanon dit aussi quelque part que pour le coloniser, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon.
Là, il parle d'Algérie, là.
Bon, je ne sais pas si c'est juste de l'Algérie.
Mais je veux dire, il parle de l'Algérie, c'est pas comme un pays, mais genre, c'est comme une pensée de la guerre de la libération d'Algérie. Tu sais que là, même Che Guevara est parti, tout ce qui est mouvement de libération de gauche à l'époque, ils ont participé à la guerre d'Algérie. C'était une épopée pour tous les militants partout dans le monde. Surtout l'Amérique latine à l'époque, le mouvement qui commençait par là-bas, sont partis en Algérie.
La décolonisation, c'est les années 60, je crois, ou 50, ou 50-60.
Ça a commencé 20-50 et a continué les années 60.
Juste après la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, oui. Avec la Première Guerre mondiale, on commençait à parler de décolonisation.
Oui.
Bon, pour les pays du tiers-monde, pour suivre ton idée, les pays du tiers-monde, les pays non alignés, bon. Mais est-ce que la situation a changé par rapport à aujourd'hui? Tu disais qu'il y avait quelques améliorations.
Oui, quelques améliorations. Les acteurs ont changé.
Okay.
Les enjeux ont changé, mais c'est la même chose. La colonisation, c'est pas les militaires qui la font. C'est à distance. Lorsque je te tiens par l'économie, la politique, vous n'êtes pas indépendant. Lorsque vous n'avez pas le libre choix pour décider de votre politique, de votre économie, vous avez toujours besoin de l'FMI, vous avez toujours besoin de tout ce qui est international pour avoir de l'argent, financement sur ton propre sol. Bah finalement, t'es pas indépendant. Je peux pas. Si je suis une banque, par exemple nationale ou internationale, mais je peux pas te donner de l'argent sans qu'il y ait un accord entre nous. C'est un contrat win-win.
Bon, maintenant, tu abordes la question financière.
Ouais.
Pour traiter avec quelqu'un de finance, est-ce qu'on a besoin d'être aussi son confesseur, son directeur de conscience?
Dans la finance, il n'y a pas de conscience. L'argent n'a pas d'odeur, n'est-ce pas?
Bon, c'est ce qu'on dit. Mais ici, je constate que, ouais, on va t'aider, enfin, on va faire affaire avec toi, Seulement si tu respectes certains principes de fonctionnement étatique.
Oui. Oui. Bon, qui correspondent à eux.
Bon, voilà, c'est ça.
C'est ça.
Voilà pourquoi je parle de directeur de direction de conscience.
Je vous pose la question.
Oui.
Est-ce que vous croyez que la démocratie occidentale, c'est ça le sujet brûlant là.
Exactement. C'était déjà brûlant à l'époque de Frantz Fanon.
Tout à fait. Est-ce que la démocratie occidentale,
oui,
comme elle est en Occident,
oui,
elle est applicable en Afrique, au monde arabe ou en Asie? La même, hein? Non. Parce que chaque culture a ses propres aspects. Je ne dis pas que la démocratie elle n'est pas applicable là-bas. Non! J'ai dit la démocratie occidentale. Parce que dans...
Il y a même des variétés, suivant qu'on est en Belgique,
oui,
en France,
oui,
en Suède.
Tu sais quoi? La démocratie en Afrique, c'est plus ancien que la démocratie occidentale.
Oui, puisque les peuples tribale sont plus anciens.
Oui, la démocratie tribale. Il n'y a, oui, pas un comité dans les tribus pour cogiter et parler des grandes décisions de chaque tribu? Bah oui.
À un moment, Mandela a même rappelé les principes de gouvernance Ubuntu. Mmh. Il disait qu'il n'y avait pas que le parti au pouvoir, mmh, gouverne pendant un certain temps jusqu'aux prochaines élections. Mais c'est tout le peuple qui devait gouverner, oui, tout le temps. Mmh.
C'est vrai.
Bon, c'était difficile à expliquer,
oui,
à une autre façon de voir, qui considère que, ouais, quand on a gagné les élections, on a droit de gouverner jusqu'aux prochaines échéances électorales.
Mais écoute, c'est ça la démocratie occidentale.
Par exemple, oui.
Je suis, malheureusement, je dis, je suis historien. Et pourquoi je dis malheureusement? Parce que, on a tendance à connaître un petit peu l'histoire. Il a regardé d'un œil critique. Tout ce qui se passe, les pays sous-développés, les cultures, entre guillemets, sous-développées, pour de vrai, c'est à cause de qui? Si on fait un petit moment de silence et on réfléchit, ces gens-là étaient bien dans leur pays. Ils étaient bien avec leurs voisins. Ils avaient une économie à eux. Ils avaient un système à eux. Ils se comprenaient entre eux. Puis, il y a d'autres forces qui sont venues chez eux. Exploiter leurs terres. Exploiter leurs minerais. Exploiter leur richesse humaine. Et vous me dites après, pourquoi ils sont devenus comme ça? C'est à cause de qui? Le taux d'illettrés, excuse-moi,
oui,
avant la colonisation était moins faible qu'après la colonisation. Sais-tu que, par exemple, en Tunisie, avant la colonisation, les filles, bah, je parlais avant 1881, les filles et les garçons avaient le droit d'aller à l'école gratuitement. Lorsque les colons sont venus, les filles n'ont plus le droit d'aller à l'école. Ben, c'est pas les... ce qu'on dit entre guillemets les indigènes. C'est un terme colonial qui en fait cette loi. Tu vois qu'est-ce que je veux dire?
Oui. Il y a un choc ici qui s'est produit. Un choc culturel, un choc même de civilisation, pour parler comme certains politiciens aujourd'hui qui justifient certaines guerres. On revient à ton idée que tu es en train de développer parce qu'elle est sérieuse. Parlons encore de Frantz Fanon qui dit « Le racisme, la guerre, la haine, le ressentiment, le désir légitime de vengeance ne peuvent alimenter une guerre de libération. Ces éclairs dans la conscience qui jettent le corps dans des chemins tumultueux, qui le lancent dans un onirisme quasi pathologique où la face de l'autre m'invite au vertige, où mon sang appelle le sang de l'autre, où ma mort, par simple inertie, appelle la mort de l'autre. Cette grande passion des premières heures se disloque si elle entend se nourrir de sa propre substance. » C'est fou,
c'est,
hein?
C'est, ouais, c'est
et
ouais.
Ce gars-là est mort avant d'avoir 40 ans. Ah. Et il réfléchissait déjà comme ça.
C'est, bah, la, voilà. La maturité à l'époque, c'était à 15 ans, je crois. Là, 40 ans actuellement, la maturité est encore douteuse. Là.
Exactement.
C'est vrai. Les... Non, non, c'est très profond. Là. Sans vécu, déjà, tu participais à une guerre. C'est pas. C'est bon. C'est pas, en point de vue nationalité, c'est pas la sienne, mais en point de vue idéologique, c'est la sienne. Une guerre de libération. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a côtoyé? Les grands penseurs qui étaient dans ce mouvement-là, ce monsieur n'était pas n'importe qui. Là.
Frantz Fanon dit « Bâtissons ensemble une Algérie qui soit à la mesure de notre ambition, de notre amour. Nous sommes des Algériens. » Bâtissons, bannissons de notre terre tout racisme, toute forme d'oppression et travaillons pour l'épanouissement de l'homme et l'enrichissement de l'humanité. Il faut dire que Frantz Fanon était devenu musulman, il était devenu algérien aussi.
Ouais.
Oui, il était.
Mais les Algériens, il y a d'autres que les musulmans, je veux dire.
Oui, 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 évidemment. Mais je suis juste en train de rappeler que. Voilà. Bon. Mais. Il y a ici un idéal qu'il exprime déjà à l'époque, mais qui est tout à fait valable aujourd'hui. Mais je me demande comment il a fait.
Parce que rien n'a changé, mon cher. C'est pas qu'il a fait, parce que ses ambitions à lui, là, en Algérie, sont toujours les mêmes. Rien n'a changé. L'Algérie a pris son indépendance, oui. Bon, indépendance politique, disons, entre guillemets. Mais ces enjeux-là, est-ce que... pour bâtir une nouvelle Algérie de l'époque, pour avancer avec le pays, est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? L'Algérie a vécu des moments très difficiles.
Extrêmement.
Surtout la dizaine après les élections de 90, là, c'était très... une dizaine d'années sanguines, là. Et en tout cas, j'espère que l'Algérie aura un meilleur avenir... parce que c'est une puissance africaine, puissance arabe, et qui est une locomotive vraiment pour le développement du monde méditerranéen d'une façon générale.
Frantz Fanon dit aussi ailleurs, la densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement. Et c'est en dépassant la donnée historique instrumentale que j'ai introduit le cycle de ma liberté.
Lola, il est fort. Il a écrit à quelle année il a écrit ça? C'est après l'indépendance de l'Algérie, je crois.
Oui, ou pendant ces mouvements de libération de l'Algérie.
Parce que c'est ça. Parce que vraiment, tu sens que ça vient vraiment de quelque chose de fort qu'il a vécu, qu'il essaie d'exprimer. Là, il se détache de l'histoire, il se détache de tout et fait son propre avis, propre chemin à lui. Là.
Exactement. Bon, il dit aussi ailleurs que la grande confrontation ne pourra être indéfiniment reportée.
Oui. Il n'y a pas que lui qui dit ça, tu sais.
Bon, je te reviens. Oui. Il dit, le colonialisme n'est pas une machine à penser. N'est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant une plus grande violence. Il dit encore, ailleurs, « Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. »
Écoute, je peux choisir très bien mes mots, là. Parce que... C'est tellement vrai ce qu'il dit, là. Mais il y a deux courants. Mmh. Est-ce que répandre la violence par la violence, c'est-à-dire s'opposer aux colons, leurs forces militaires, et avoir des mouvements de libération par force militaire, ou faire tout ce qui est pacifique, et devant un fusil, on a une rose.
Frantz Fanon t'a entendu. Mmh. Et il dit ailleurs, « Mon ultime prière... « Oh mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. » Tu oui. vois, il t'a entendu. Hein?
Oui. Mais lui, à l'époque, il a eu le privilège. Il était d'un mouvement de libération armée.
Oui, mais Frantz Fanon n'est pas un combattant militaire. C'est plutôt un penseur.
Qui a porté les armes?
Je ne sais pas s'il a porté les armes.
Elle est partie en Algérie durant le mouvement de libération pour...
Ben, il y avait des gens qui sont allés là-bas pour... Parce qu'il était psychiatre.
Oh oui, peut-être un médecin. Bah,
oui.
Bah, ouais, ça peut être, oui. Bah, même Che Guevara était un médecin, mon cher.
Différent.
Oui.
Parce que...
Oui, très différent.
Oui, c'est ça. Guevara a choisi délibérément...
D'être un combattant.
Bah, oui, oui.
Oui, mais...
Ce n'était pas le cas de Fanon.
Ah non, c'est très différent. Oui. Oui. Leur parcours est très différent de...
Fanon n'était, de mon point de vue, même pas politique. C'était un directeur de conscience.
Oui. Oui. C'est vrai, d'après ce qu'il écrit là,
oui.
C'est très profond. Et en fait, ils ont le privilège de vivre ça. Pourquoi je dis le privilège? Parce qu'ils sont vraiment dans la tourmente. Tu sais, lorsqu'on entre dans ce qu'on appelle un giratoire ou un rond-point, tu as plusieurs voies. Tu viens d'une voie, mais tu as une bifurcation, genre 3, 4, 5 autres voies. Lui, il est vraiment dans son giratoire. Il a choisi, il se questionne, il se détache, il analyse et prend ces blocs-là qu'il a détachés, il les façonne à sa vie,
à
sa façon à lui.
Il dit aussi ailleurs... Les masses paysannes dans les pays industrialisés sont généralement les éléments les moins conscients, les moins organisés et aussi les plus anarchistes. Elles présentent tout un ensemble de traits, individualisme, indiscipline, amour du gain, aptitude aux grandes colères et aux profonds découragements, définissant un comportement objectivement réactionnaire. Bon, il fait sa description là de la paysannerie de son temps dans les pays dits développés. Bon, ailleurs il dit aussi, non, nous ne voulons rattraper personne, mais nous voulons marcher tout le temps, la nuit et le jour, en compagnie de l'homme, de tous les hommes. Il s'agit de ne pas étirer la caravane, car alors... Chaque rang perçoit à peine celui qui le précède. Et les hommes qui ne se reconnaissent plus se rencontrent de moins en moins, se parlent de moins en moins. Il s'agit pour le tiers monde de recommencer une histoire de l'homme.
Oui, il a totalement raison.
Là encore, il t'a entendu.
Non, pour de vrai, là, il a totalement raison. Parce que, écoute, en tout cas... L'analyse de la plèbe, comme on dit à l'époque romaine, ou la populace, la paysannerie, c'est valable jusqu'à maintenant. C'est même pas dans les pays en cours de développement ou développés. En France, là, dernièrement, qu'est-ce qu'il y a eu avec la crise des agriculteurs? Ils étaient qui, les anarchistes? C'était des paysans. Ils sont sortis de leur ferme, de leur champ, pour manifester, n'est-ce pas? Les Gilets jaunes, c'était qui? Le mouvement des Gilets jaunes qui a fait stopper toute l'industrie française. Ils ont attaqué les symboles de la République française. C'était qui? C'était pas moi, c'était pas toi. C'était des Français qui vivaient en France. C'était les gens que personne n'écoutait. Et c'est ça la paysannerie, c'est ça la plèbe. Le vrai peuple, c'était ça. Que personne n'écoute. C'est pas les élites. Et là... Qu'est-ce qu'il dit? Il faudra avoir, ce que je disais tout à l'heure, une nouvelle génération qui va prendre le flambeau et avancer. Mais pas itérer les caravanes, c'est-à-dire qu'on doit resserrer les rangs et marcher, ce qu'on appelle, j'aime pas trop le mot, mais la marche militaire, genre, sur le même tempo, avec des rangs très serrés, pour faire comme si une seule entité.
D'ailleurs, oui, pour nous autres qui avons été à un moment dans... L'armée, qui avons. Bon. On parle de l'ordre serré.
Voilà.
Oui.
Moi, je faisais les manifestations à l'époque. on se tenait, pour de vrai, on se tenait. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Mais j'étais sur. Pas les premières lignes, mais la première ligne de la manifestation. La première ligne. Et ça fait très, vraiment très, 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 très pas peur, mais tu sens des choses, mais genre de l'adrénaline, tu sens que tu as de nouvelles veines dans ton corps. Et imaginez un petit peu une manifestation où il y a 10 000 personnes. 10 000, pas trop, bon, 10 000 personnes. Toi, tu es la première ligne. Tu donnes le tempo. Et tu as tes amis, tes camarades, tes frères, tes sœurs, genre, je sais pas, genre, à droite et à gauche, qui tout le monde se tient par le coude pour resserrer les rangs.
Exactement.
Et si tu t'arrêtes, il y a devant toi des chars de policiers, acrymogènes, avec des chiens, des chevaux, des tanks, tout ça, tu t'arrêtes. T'as 10 000 personnes derrière toi qui te poussent à avancer.
Exact.
Tu peux pas t'arrêter. Et le premier coup qui la prend, bah c'est toi. C'est ça. Et après, t'auras 10 000 personnes qui passent sur ton corps.
Qui passent sur ton corps,
ça.
Oui.
Mais je veux dire que c'est ça pour avancer. Faudra être vraiment resserré les rangs. Marcher comment,
Oui, il disait...
Ce que tu disais en
militaire. La formule militaire, c'est l'ordre serré.
L'ordre serré. Marcher en ordre serré pour vraiment avancer. Et tu sais, lorsqu'un peuple marche comme ça, rien ne l'arrête. Parce qu'il a des pas, il fait des pas en confiance. Mmh. Il a la tête, les yeux vers l'avenir, vers l'horizon pour avancer.
L'élément que Fanon... précise aussi, c'est que il ne doit pas avoir un grand écart entre les lignes. Parce que dès qu'il y a un écart entre les lignes, on perd le contact.
C'est vrai.
Le contact doit continuer d'exister entre les lignes. Oui.
Et pas que les lignes de marche, il parlait des classes sociales.
Oui, dans tous les... Oui.
Les classes sociales doivent être très, 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 très rapprochées parce que lorsqu'on perd la classe moyenne, par exemple, qui fait un lien entre la classe la plus démunie, la classe des riches, là, on n'avance plus. La société sera déréglée.
Bon, mais maintenant, dans la pensée de Fanon, parce que lui, c'est mon point de vue, il voit l'humanité comme une seule communauté. Mmh. Bon. Mais avec des variantes qui l'énervent un peu. C'est ça. Bon, alors, si l'humanité est une communauté, nous constatons que à certains endroits, elle est mieux gérée. Je vais faire un exemple. Ici, au Canada, au Québec, je trouve que c'est mieux géré. Je parle d'une gestion basique, là, day to day, chaque jour, qu'au Cameroun, où il y a un certain désordre. Mmh. Maintenant, on peut constater certaines raisons à cela. Mais on constate aussi que, jour après jour, la gestion se fait mieux au Québec, au Canada, qu'au Cameroun. Mmh. Même s'il s'agit de trouver les raisons... Mmh. De cet état de fait, on doit d'abord faire ce constat-là.
Écoute, tu touches là. T'es en train de jouer sur les cordes là.
Non, mais oui.
En fait, il y a plusieurs facteurs pour la comparaison. Le premier, je crois, c'est l'impunité. Il faudra respecter les lois. C'est pour ça, par exemple, tu dis c'est mal géré. Oui, pourquoi c'est mal géré dans notre pays, au monde? Parce qu'il y a l'impunité, il y a la corruption, il y a la nonchalance. Il y a d'autres facteurs, si on les combine ensemble, ça donne une malgestion. Et il y a aussi ce qu'on appelle la non-gouvernance, une mal-gouvernance. Parfois, ça n'existe plus. Là. Et la malgouvernance. Tout ça combiné ensemble, ça donne une très mauvaise gestion.
Mais ça n'a rien à voir avec les anciens colonisateurs.
Si, c'est eux qui ont implanté ça.
Mais on peut s'en débarrasser, non?
Non.
Si quelqu'un me met un gilet vert... qui ne me plaît plus, je peux enlever le gilet vert et mettre un gilet blanc?
Non. Les pays colonisateurs à l'époque, ces forces-là, ils ont créé une élite politique. C'est leur propre élite qui a gouverné ces pays-là jusqu'à maintenant. Même si elle a pris l'indépendance, Non, c'est une élite très proche culturellement, proche de la pensée des colons, très proche. Bah, ils ont fait leur étude où?
Oui, mais on a fait les études. Oui.
Je te pose la question.
Personnellement, je fais partie de cette élite-là. Mais j'ai décroché.
Voilà. Mais est-ce que tu es entré avec tes semblables, je veux dire, des semblables qui ont la même pensée que toi, dans un front commun, uni, pour combattre les gens qui régressent du pays?
Difficile.
Voilà. Pour de vrai, c'est ça. C'est ça.
Difficile, mais...
L'élite nationaliste, l'élite qui veut avancer de leur pays, là, nationaliste, je veux dire pas le nationaliste d'extrême droite, non, non. Je veux dire nationaliste qui aime avancer économiquement, politiquement, avoir l'indépendance, avoir des grandes industries, tout ça. Si, ça existe. Mais tellement le courant, il est fort, que tu peux pas lutter contre.
C'est ça, c'est que nous sommes encore minoritaires et on n'arrive pas à avoir une masse critique permettant un réel changement.
C'est ça.
Mais ce n'est pas une raison pour ne pas affirmer un certain point de vue.
Oui, mais tu peux l'affirmer où? Dans nos pays à nous? Ok, d'accord. Ok. Voilà, ton sourire a répondu à ma question.
Ouais, j'aime bien ta remarque. Nous allons faire... une escale musicale suivie d'une pause publicitaire et puis nous revenons tout juste derrière.
FM à Québec.
En Moukaosit.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeositz. Anmukeositz, tous les dimanches à midi sur Cheese 94.3.
Allô Patrick, comment ça va?
Ben ça va bien toi?
Ah, pas très bien. On dirait que je sais pas quoi écouter comme musique.
Ah ouais, ben c'est ça pour toi. Écoute le monde d'Erika Sonneau, c'est vraiment bon. Il y a plein de musique qui va te remonter le moral.
Ah oui? Qu'est-ce que c'est?
Ben il y a plein de nouveautés de tous les styles musicaux, comme la musique anglophone, francophone, autochtone. Il y a même la musique punk et metal.
Ah ouais?
Et en plus, c'est vraiment cool. Il y a la musique no country, rap, reggaeton, EDM club, sans oublier découvertes internationales, ainsi que la réaction forte de la semaine.
Ben là, les fans de musique, réveillez-vous! À quel endroit on peut retrouver ça?
Tous les dimanches, entre 19h à 20h30, à Chiz 94.3.
C'est de rendez-vous!
Le mois multi. Festival international d'art multidisciplinaire et électronique célèbre son 25e anniversaire. Performances, spectacles, expositions, ateliers et activités vous attendent du 1er au 25 février au cœur de la ville de Québec. Joignez-vous à la fête et consultez la programmation complète au moismulti.org.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Passe d'abord, c'est bien fait. Le tir est là-bas.
Les Remparts de Québec affrontent les Huskies de Rouyn-Noranda pour une deuxième fois en deux jours, ce samedi 17 février à 19h. Rick Lucie vous attend dès 18h45 pour son habituel avant-match. Remparts Huskies, samedi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Après Franz Fanon, visitons Aimé Césaire. On parlait de décolonisation, mais pendant ces moments-là, il y a aussi eu un mouvement qu'on appelait la négritude. Alors, Aimé Césaire a travaillé sur ce concept avec deux autres amis, Léon Gontran Damas et Léopold Sédar Senghor. Oui. Mais parlons d'Aimé Césaire. Aimé Césaire est né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe et il est mort le 17 avril 2008 à Fort-de-France. C'est un écrivain et homme politique français, à la fois député, maire, poète, dramaturge, essayiste et biographe. Comme pensée qui nous guide, qui guide nos échanges aujourd'hui, nous dirons dans la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire, nous lisons: ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir.
Ma bouche sera la bouche des opprimés, vous dites. C'est ça.
C'est qu'Aimé Césaire était poète.
Oui. Ouais.
Et c'était quelqu'un qui avait une maîtrise supérieure de la langue française.
Bah, c'est des grands hommes, là. Tu cites, là, c'est vraiment un calibre très, très... Bah, c'est, pour de vrai, c'était des grands penseurs, des grands poètes aussi.
Exactement. Et partageons aussi une autre bonne feuille. Je demande trop aux hommes. Et là, nous demandons l'indulgence de notre public. Bon, parce que là, nous devons citer Césaire. Mmh. Voilà. Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres, madame. S'il y a une chose qui, autant que les propos des esclavagistes, mérite, c'est d'entendre nos philanthropes clamer, dans le meilleur esprit sans doute, que tous les hommes sont des hommes et qu'il n'y a ni blanc ni noir. C'est penser à son aise et hors du monde, madame. Tous les hommes ont même droit. J'y souscris. Mais du commun lot, il en est qui ont plus de devoirs que d'autres. Là est l'inégalité, une inégalité de sommation, comprenez-vous? À qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis tous, sans privilège, sans particulière exonération, ont connu la déportation, la traite, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte, que tous ils ont reçu plaqué sur le corps, au visage, l'omni niant crachat. Nous seuls, madame, vous m'entendez, nous seuls, les nègres, alors au fond de la fosse, c'est bien ainsi que je l'entends. Au plus bas de la fosse, c'est là que nous crions, de là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. Et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le pied qui s'arc-boute, le muscle qui se tend, les dents qui se serrent, la tête, oh la tête large et froide. Et voilà pourquoi il faut en demander aux nègres plus qu'aux autres, plus de travail, plus de foi, plus d'enthousiasme. Un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir gagné chaque pas. C'est d'une remontée jamais vue que je parle, messieurs, et malheur à celui dont le pied flanche.
C'est très profond, c'est... et c'est véridique, mon cher.
C'est quelque chose. Est-ce que nous avons écouté Otis Redding?
Non.
These Arms of Mine, puisque nous sommes à la suite de la semaine des amoureux. Mm-hmm. Avant tes commentaires sur la pensée de Césaire.
Ah, qui je est croyais que les commentaires sur les amoureux. Oui, oui, vas-y.
On va un peu atténuer
okay.
le discours. I need your loving arms. C'est que malgré toutes les obligations de la vie, mm-hmm. nous devons en même temps aussi vivre l'amour.
Ben oui, sinon on ne peut pas avancer. Est-ce que tu peux concevoir la vie sans amour?
Bon, c'est ça.
Il y a différentes sortes d'amour, attention.
Ah.
Ah. Je ne parle pas d'amour que amour de blonde.
Ok. Oh,
c'est défini comme tu veux, mais je parle d'amour de la patrie, mm-hmm. des origines, mm-hmm. des enfants. Je parle de l'amour de soi-même. Mm-hmm. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas avoir de l'estime.
Aimer les autres.
Les autres, oui. Être compréhensif, écouter. Tout ça, c'est l'amour, mon cher. C'est pas que genre, oui, j'aime ma blonde, j'aime mes enfants, c'est tout, et on reste dans notre... Non, non, non. On doit aimer... Aimons-nous tous. Et comme ça, on peut avancer ensemble. C'est pas que de la théorie.
tu viens de nous amener, on allait le faire plus tard, mais on va le faire tout de suite.
Allons-y.
Michael Jackson, Will You Be There?
Oui.
And I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there?
Fallait adoucir un peu après l'exhortation de Césaire.
Oui.
Oui. C'est comme s'il avait un fouet pour dire malheur à celui dont le pied flanche. Bon, voilà. Alors, Césaire me fait penser à un rappeur qu'on appelle Kanye West.
Mmh.
Oui. Mais évidemment, Césaire est plus éduqué.
Qui, Césaire ou Kanye West?
Ben, Kanye, on ne peut pas parler d'éducation à propos de Kanye West.
Non, c'est ça, oui. Mais, parce que les gens ont changé, les valeurs ont changé. Mais écoute, tu sais, par rapport... C'est une très bonne comparaison que tu as faite, parce que les rappeurs, ils sont... on les dénigre tout le temps. Genre, ils disent des trucs, c'est des gangsters, c'est des bandes, mais sans vraiment des vecteurs, ils prennent la parole. Ils mettent en valeur leur vécu, leur quotidien, par la parole.
C'est ça, parce que pour Kanye West, il n'y a pas de justification. pour lui, il faut prendre, les communautés noires doivent prendre leur place et ne plus considérer l'histoire. Bon. Et quand nous parlons de Césaire ici, au moment de la décolonisation, c'est un peu ce qu'il disait. Nous avons une situation qui ne nous plaît pas. Alors, il s'agit de régler les choses tout de suite. Et on ne peut pas considérer les blessures ou le reste. Nous devons régler ce qui doit être réglé.
Oui, mais je...
C'est là où je fais le lien entre Césaire et Kanye West.
D'accord, je te rejoins, d'accord. C'est vrai, on doit faire ce qu'on a besoin de faire, mais aussi, on doit soigner nos blessures.
Bon, c'est pour ça que j'ai mis Michael Jackson, bon, qui garde une part de, comment dire, d'affectivité, qui peut parfois nous ralentir aussi, ou peut-être améliorer la vie pendant qu'on fait ces combats.
Oui, bah, il le faut. Une petite douche de douceur, il le faut, pour se rappeler toujours qu'on est des êtres humains, qu'on a des faiblesses aussi.
Bon, et c'est là que je trouvais que peut-être que ça peut être difficile d'appliquer le programme de Aimé Césaire ou d'appliquer le programme de Kanye West, alors que nous sommes juste des êtres humains.
Tout à fait, on doit le dire tout le temps. C'est très difficile, mais pas que difficile, c'est très difficile. Tu sais, le fait d'expérimenter qu'on nage contre courant,
c'est ça.
C'est très, très, très éprouvant. Quand on est jeune, pas de famille, pas d'enfants, pas de foyer, c'est juste nager contre courant. On a le souffle, on peut tenir bon. Mais lorsqu'on a des êtres chers...
Qu'il faut traîner.
Ouais, ça devient plus pénible parce qu'on est des êtres humains. On a des sentiments. On a de l'amour vers nous autres. Et là, ça devient très difficile. Tu sais, le fait de soigner, c'est comme un corps qui a beaucoup de blessures et qui a un devoir à faire. Est-ce qu'il peut faire ce devoir
faisant fi de ses blessures?
C'est ça. Non. Il faudra bien soigner son corps pour faire son devoir dans les conditions les plus optimales. Bon. Sinon... Ça sera un travail moitié fait.
Oui, ce que tu dis, mais dans la situation que décrit Aimé Césaire et que nous évoquons avec Kanye West, leur position est que nous devons faire fi de nos blessures, faire fi de notre affectivité et répondre aux interpellations de nos responsabilités. Bon, et quand on a écouté Frantz Fanon au début de nos échanges, il parlait de soit accomplir notre mission, soit la trahir.
Oui. Oui, oui, d'accord, ok. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on ne peut pas les faire ensemble? Pourquoi les détacher? Tu vois qu'est-ce que je veux dire? On doit accomplir notre devoir, oui. C'est notre devoir.
C'est parce qu'ils ont l'impression que si nous cédons à l'affectivité, si nous tenons compte de nos blessures, la mission ne sera pas accomplie.
Écoute, on doit mettre dans notre tête toujours qu'on est des êtres humains, mon cher. On peut pas nous enlever ou nous auto-enlever cette humanité. On n'est pas des robots. On n'a pas un bouton « on, off ». On n'a pas pourtant marche arrêt là. Et c'est ça. On doit faire ce qu'il devra faire, mais aussi, il faudra soigner des blessures. Je ne dis pas qu'il faudra toucher à la plaie et élargir la blessure. Attention là. Je dis juste soigner la blessure. Parce que sinon, cette blessure-là va engendrer une gangrène. Et on devra amputer, n'est-ce pas?
C'est des bons arguments. Écoutons Harry Belafonte, Haïti chéri.
Haïti chéri, says Haiti is my beloved land. Oh, I never knew that I'd have to leave you to understand just how much I miss the gallant citadel, where days long ago brave men served this country well. Their sun is bright, or even with soft moonlight, a shading tree.
Césaire dit aussi quelque part, et venant, je me dirai à moi-même, et surtout mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mer de douleur n'est pas un proscenium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse.
Oui, c'est vrai. Et malheureusement, maintenant, la vie est devenue un spectacle à cause ou à grâce des médias sociaux.
Césaire dit aussi quelque part, c'est toi qui parles, tu vas continuer. C'est quoi une vie d'homme? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté.
Oui. Oui. Écoute. Il y a deux volets. Déjà, la vie, ce n'est pas un spectacle, et ça, c'est vrai. Mais tu te souviens, on avait quelques émissions en arrière, là, on parlait des gens qui se relevaient le matin, les pères de famille, on parlait des pères de famille.
C'est ça, on parlait du courage, du vrai courage.
C'est ça, c'est le vrai courage. C'est ça. Mais on est toujours entre les deux. On se réveille le matin, on descend du lit ou non. Mais toujours, on prend notre courage là et on avance. C'est un peu ça aussi.
Pour moi, à la suite de ce que tu dis et pour compléter, Césaire veut rappeler qu'il y a des pensées inconfortables, mais qu'il s'agit d'assumer quand même.
Il faudra toujours assumer nos pensées, mon cher.
Il dit aussi quelque part... La négritude, à mes yeux, n'est pas une philosophie. La négritude n'est pas une métaphysique. La négritude n'est pas une prétentieuse conception de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît, à vrai dire, singulière, avec ses déportations de population, ces transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souvenirs de croyances lointaines, ces débris de culture assassinés. Comment ne pas croire que tout cela, à sa cohérence, constitue un patrimoine? En faut-il davantage pour fonder une identité? Césaire se pose vraiment les questions, même celles qui fâchent. À la suite de ça, je crois, il dit aussi quelque part, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Prenons une escale musicale, suivie d'une pause publicitaire, et revenons tout juste après.
Ta main dans mes cheveux encore et souffle un cyclone dans mon cou. Ça fait frissonner tout mon corps. C'est bien trop beau pour arrêter d'y croire.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chéri J'arrive sur zone de Schiste 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chéri J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Cheese 94.3.
Alors, c'est ça. Aimé Césaire pense qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on enseigne généralement. On enseigne aux gens à être capables de mieux ruser ou de mieux comprendre les ruses.
Bah oui, c'est les concepts contemporains là. Pour mieux ruser, pour mieux vivre, mieux ruser, pour avancer.
C'est ça.
Mais à la base, c'était pas ça. Les vraies valeurs, c'était pas ça.
Donc tu penses que Césaire exprime les vraies les vraies valeurs.
Oui, oui, c'est les vraies valeurs, oui.
Césaire dit aussi quelque part, pour compléter ce que tu dis, non, jamais dans la balance de la connaissance, le poids de tous les musées du monde ne pèsera autant qu'une étincelle de sympathie humaine. Il dit aussi que la vérité scientifique a pour signe la cohérence et l'efficacité. La vérité poétique a pour signe la beauté.
Oui. Oui.
Et pourtant, moi je pense que on peut appliquer aux deux les mêmes principes. C'est-à-dire que à la vérité poétique, on peut aussi appliquer la cohérence et l'efficacité, comme à la vérité scientifique, on peut aussi appliquer la beauté. Mais Césaire a voulu distinguer, peut-être pour...
À ses yeux, peut-être la vérité poétique un petit peu loin.
Un peu plus, oui.
Ouais.
Un peu plus. Bon, il dit aussi quelque part, pluie capable de tout, sauf de laver le sang qui coule sur les doigts des assassins. Des peuples surpris sous les hautes futaies de l'innocence. Il dit aussi, au bout du petit matin, l'extrême, trompeuse, désolée, escarre sur la blessure des os, les martyrs qui ne témoignent pas, les fleurs du sang qui se fanent et s'éparpillent dans le vent inutile comme des cris de perroquets babillards. Une vieille vie, menteusement souriante, ses lèvres ouvertes d'angoisse désaffectée, une vieille misère pourrissant sous le soleil, silencieusement. Un vieux silence crevant de pustules tièdes, l'affreuse inanité de notre raison d'être. C'est quelque chose. Alors, pour atténuer ça aussi, écoutons Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.
Two big hit records in a row, Mr. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Thing he's found. If she is bad, he can see it. She can do no wrong. Turning back on his best friend if he put her down.
Please God, hush misery.
Je prête de nouveau ma voix à Aimé Césaire. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. J'habite un voyage de 1000 ans. J'habite une guerre de 300 ans. J'habite un culte désaffecté. Entre bulbes et cailloux, j'habite l'espace inexploité. Je m'accommode de mon mieux de cet avatar. Je m'accommode de mon mieux de cet avatar, d'une version du paradis absurdement ratée. C'est bien pire qu'un enfer. J'habite en même temps une de mes plaies. Je reste avec mes pains de mots et mes minerais secrets. J'habite donc une vaste pensée, mais le plus souvent, je préfère me confiner dans la plus petite de mes idées. C'est un extrait de Calendrier lunaire du recueil « Moi, laminaire ». Or, quand un poète a une pensée philosophique puissante, c'est parfois ce que ça donne.
Oui.
Alors, ce qui est curieux, c'est que le même qui parle de ses blessures, c'est le même qui dit de faire fi de ses blessures pour avancer.
Oui.
Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une contradiction, ou alors c'est les miracles de l'être humain de faire... de jouer sur tous ces tableaux-là.
C'est le miracle de l'être humain. C'est ça, c'est un poète, il ne faut pas oublier. C'est sans force, c'est de jouer avec les mots, c'est de jouer avec les temps, c'est de jouer avec nos sentiments aussi. N'est-ce pas, mon cher?
Je suis obligé
d'être d'accord avec toi.
Bah toi aussi, t'es poète et chantonnier.
Oui.
Bah oui. Tu joues avec nos sentiments.
C'est ce que je fais, oui.
Voilà.
Mais c'est parce que souvent à la radio, il faut aller chercher. Faut parfois prêcher le faux.
Bah oui. Ouais.
Pour avoir le vrai.
Ça, c'est sûr.
Écoutons encore Césaire qui dit, cette fois c'est Lumumba qui parle. Quand je pense que pendant 50 ans, ils ont rampé devant le Belge, et nous n'avons pas plutôt posé notre cul sur un fauteuil que les voici à nous mordre les jarrets. Un ministre. C'est gay. Elle commence bien l'indépendance. Et Lumumba de dire, imbécile. Et comment croyais-tu qu'elle commencerait? Et comment crois-tu qu'elle continuera? Comment croyez-vous que cela allait se passer? Quand je vous ai nommé ministre, est-ce que vous avez eu l'impression que je vous invitais à une partie de plaisir? En tout cas, je ne vous prends pas en traître. Tout, nous aurons tout, et en même temps. Et tout de suite, la révolte, le sabotage, la menace, la calomnie, le chantage, la trahison. Vous avez l'air étonné. C'est ça le pouvoir, la trahison, la mort peut-être.
C'est fort là, c'est ça le pouvoir mon cher. C'est ça pour de vrai, c'est ça le pouvoir.
C'est quelque chose de... Enfin... Ce n'est pas l'idée que la plupart d'entre nous ont du pouvoir.
Ben, écoutez, en tout cas, le pouvoir, c'est pas un... Tu connais, genre, les chaudrons Tefal, là les chaises du pouvoir, c'est pas Tefal. Les chaises du pouvoir, c'est lorsqu'on s'assoit sur une chaise de pouvoir, là,
oui.
On est collé. On peut pas bouger. Et on dit toujours, le pouvoir... On peut pas avoir des enfants avec une chaise de pouvoir. C'est-à-dire que... On tue pour le pouvoir dans l'histoire. C'est véridique. Il y a du sang toujours sur le trône. Et on enlève notre humanité lorsqu'on s'assoit sur ce trône.
Écoutons Donna Summer, puisque nous sommes, malgré tout, à la suite de la semaine de l'amour.
Malgré tout, oui.
malgré tout. Écoutons Donna Summer. Pandora's Box. Thank you.
La fameuse histoire de la boîte de Pandore qu'il ne fallait pas ouvrir sans faire attention. Malheureusement, elle a été ouverte par mégarde. Tout est sorti, le bon, le mauvais, tout est sorti. Et il est resté au fond de la boîte, juste l'espoir.
Tant qu'il y a de l'espoir, mon cher, il y a de la vie.
Ça donne beaucoup d'idées, malgré les douleurs qui peuvent nous affecter. Même la mythologie nous rappelle qu'il y a l'espoir dans la boîte de Pandore et chanter avec la belle voix de Donna Summer. Aimé Césaire dit « Nous frapperons l'air neuf de nos têtes cuirassées. Nous frapperons le soleil de nos paumes grandes ouvertes. Nous frapperons le sol du pied nu de nos voix. » Lumumba dit aussi quelque part « J'ai à vous raconter l'Afrique. Aïe ! Afrique ! Les yeux, le dos, le flanc. Europe, tes serres. Amérique, ton bec. Asie. Asie, ah, ce pourchasse de fientes et de rostres. L'Afrique est comme un homme qui, dans le demi-jour, se lève et se découvre assailli des quatre points de l'horizon. Aimé Césaire continue en disant « Au bout du petit matin, cette ville inerte et c'est au-delà de lèpre, de consommation, de famine, de peur tapis dans les ravins, de peur juchée dans les arbres, de peur creusée dans le sol, de peur en dérive dans le ciel, de peur amoncelée et ses fumerolles d'angoisse. » Partir, comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme kafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture, on pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer parfaitement. Le tuer sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Mais est-ce qu'on tue le remords? Beau comme la face de stupeur d'une dame anglaise qui trouverait dans sa soupière un crâne de Hottentot. Je ne sais pas ce que tu en penses avant que je passe à une musique qui nous amène à la conclusion de l'émission.
Oui, je suivais tout ce qu'il disait, mais vraiment oui. Tu me donnes envie de continuer à lire ça.
À lire, oui. Aimé Césaire. Aimé Césaire a une abondante littérature qui nous interpelle sérieusement. Et écoutons Proud Mary. Proud Mary avec Tina Turner.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing.
Down in the city.
You see, we'd never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice,
every night and
easy.
Day.
We always do it.
I never lost
nice.
One minute
and rough.
And
but we're going to take the beginning of this song
the thing
and do it
been.
Easy.
Big wheel keep
But then we're gonna do the finish. Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary.
And we're rolling. Rolling. Rolling on the river.
Listen to the story.
Left a good job
down in the city.
Working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep.
And I was worrying about the way that things might have been. You know that
big wheel keep on turning. Proud Mary, keep on burning.
Concluons avec Aimé Césaire qui dit « Je suis un souvenir qui n'attend pas le seuil et erre dans les limbes ou le reflet d'absinthe. Quand le cœur de la nuit souffle par ses évents, bouge l'étoile tombée où nous nous contemplons. » Bon samedi.
Toi aussi.
Ahmed. Et
samedi prochain.
À samedi prochain.